Les dossiers Construction 21, regard croisé sur le bâtiment et la ville durable.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau rendez-vous des dossiers de Construction 21. Nous sommes ravis de vous retrouver. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la massification de la rénovation. Dans quelques semaines, en effet, la COP26 nous rappellera l'urgence d'agir pour le changement climatique et les objectifs ambitieux fixés par les États pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Et justement, pour atteindre ces objectifs, le secteur du bâtiment est en première ligne puisqu'il représente aujourd'hui 43% de la consommation énergétique des Français et un quart des émissions nationales de gaz à effet de serre. Pour décarboner le secteur, il est nécessaire d'amorcer des changements dans la construction neuve, mais il est aussi et surtout urgent de s'attaquer aux bâtiments anciens et donc à la rénovation du parc existant. Seulement, le parc immobilier français ne se renouvelle que de 1% par an actuellement. Il est donc essentiel que celui-ci soit massivement rénové. Comment accélérer le rythme annuel des rénovations énergétiques? Comment aider aussi les particuliers, les collectivités, les professionnels à passer à l'acte? C'est tout l'objectif du dernier dossier de Construction 21 réalisé en collaboration avec l'Alliance HQE-GBC et Novatech INEF4. Je vais accueillir tout de suite quelques-uns justement des contributeurs aujourd'hui. Alors, tout d'abord, honneur aux dames, j'accueille Estelle Reveillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien?
Très bien.
En pleine forme?
En pleine forme.
Et André Falchi, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous allez nous dire quelques mots tous les deux sur justement ces sujets, sur l'importance de l'enjeu de massifier ce que vous avez voulu aussi montrer dans ce dossier qui est très très important. Tout le monde en parle en ce moment. On va peut-être commencer avec vous, Estelle Reveillard. Du coup, vous êtes directrice de l'Alliance HQE-GBC.
Oui, alors vous l'avez dit vous-même en introduction, entre le changement climatique que nous ressentons tous les jours et le dernier rapport du GIEC qui est sans équivoque, il faut au plus vite atteindre la neutralité carbone et réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre. Par ailleurs, on ne cesse de rappeler que le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie, tout secteur économique confondu, et qu'il est indispensable de réduire la consommation énergétique des bâtiments en France, mais aussi dans le monde. Et c'est vrai que la rénovation est une clé pour parvenir à atteindre cet objectif-là. Néanmoins, le rythme actuel des rénovations reste bien en dessous des objectifs, et puis les actes isolés ne suffiront vraiment pas à atteindre les objectifs qui sont fixés en France comme en Europe. Donc il faut donc impérativement généraliser les rénovations pour renforcer leur impact. Et c'est une mission qui est une mission de grande ampleur et un véritable défi, mais un véritable défi collectif. Donc dans ce dossier, nous avons voulu mettre en lumière des réponses aux questions qui reviennent souvent. Comment accélérer l'acte de rénover, la rénovation, et particulièrement du côté HQE, comment changer d'échelle et comment appréhender une rénovation globale? Le dossier apporte des retours d'expérience, des idées, des décryptages qui peuvent être dupliqués. Et ce que nous avons voulu traduire à travers ce dossier et puis les articles qui le composent, c'est que l'action collective est une clé vraiment pour massifier la rénovation.
Très bien, merci beaucoup Estelle. André Falchi, alors vous êtes directeur général de Novatech INEF4, rédacteur en chef également de ce dossier. Quelques mots avant d'entrer dans le vif du sujet peut-être?
Oh ben oui, pour reprendre un peu votre introduction et ce que vient de dire ma collègue, ce dossier on l'a voulu en fait pour donner envie et pour montrer qu'effectivement il y a un enjeu, il est important, c'est une grosse montagne à avaler, mais il y a déjà des gens qui commencent à courir dessus.
Heureusement.
Pas encore assez, ouais. Mais je pense qu'effectivement, on a voulu surtout montrer la bonne voie par les exemples, comme vous le citez. Et ils ne sont pas tous exhaustifs, il y en a encore à venir, d'autres qui sont en train de mûrir. Mais déjà, c'est un premier bon éclairage pour un petit peu démythifier et rassurer. Pour pouvoir faire que les gens s'y engagent, parce que effectivement c'est une œuvre collective, elle ne sera pas individuelle.
Et on est obligé d'être tous ensemble pour le faire.
Oui.
Les dossiers Construction 21, première table ronde.
avec moi autour de la table pour en parler. Tout d'abord, Estelle Réveillard, directrice de l'alliance HQE-GBC. Vous allez nous parler justement du défi du changement d'échelle.
Oui, tout à fait. En effet, pour massifier la rénovation, il y a un changement d'échelle qui est à opérer. Oui. Et c'est un changement d'échelle qu'il faut faire à plusieurs niveaux. Alors le premier niveau, enfin la première des choses, c'est d'abord de la jouer collectif.
Ce qui n'est pas toujours évident.
Non, c'est pas évident, mais pourtant c'est très important et c'est sans doute l'une des clés de la réussite de cette rénovation massifiée en tout cas. Donc il faut agir, le fait d'agir à plusieurs en fait, en même temps, c'est forcément un facilitateur de la rénovation quand on y pense. D'abord ça permet de réduire les coûts parce qu'on passe commande ensemble. Ensuite, le fait de vivre ensemble un chantier, bah peut-être qu'on le vit mieux et que les nuisances dans ce cadre-là, à partir du moment où on agit ensemble, bah les nuisances ont peut-être de fortes probabilités pour être réduites. Et puis il y a quand même quelque chose qui est très important, c'est que quand on joue ensemble, ça veut dire qu'on prend des décisions ensemble, mais ça veut dire qu'on s'embarque ensemble et que finalement on est responsable ensemble. Et ça, quelque part, c'est peut-être un petit changement de paradigme. Et donc un véritable changement d'échelle qui est important de considérer dans la rénovation. Alors, ça c'était pour le premier, mais il y a d'autres leviers hein, qu'on a identifiés. Changer d'échelle, dans le changement d'échelle, il faut aussi s'interroger et s'intéresser à la rénovation complète d'un ensemble. C'est-à-dire qu'il ne faut plus forcément... on peut raisonner à l'échelle du bâtiment, mais c'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être plus raisonner à l'échelle d'un îlot, voire même d'un quartier. Mais bon, on sait bien que la rénovation d'un quartier, c'est un parcours qui va s'avérer compliqué parce que justement, il y a une décision qui est collective et qui va viser une multitude de propriétaires. Mais dans ce contexte-là, il faut surtout rassurer. Et là, en fait, il y a plein d'initiatives innovantes qui sont mises en place.
Et rassurer, quand vous dites rassurer, c'est rassurer qui, en fait?
Mais c'est rassurer tous les acteurs, en fait. Des acteurs qui sont peut-être pas, qui ne se parlent peut-être pas forcément beaucoup, qui sont pas habitués à travailler ensemble et qui n'ont pas forcément, qui n'ont pas l'habitude de se parler, mais il faut faire en sorte que ces acteurs-là, que tous les acteurs de la chaîne de valeur où se parlent et ça peut permettre de garantir le succès de la rénovation. Et là en fait là encore on revient au jeu collectif mais sur une autre échelle, non pas celle du bâtiment mais celle du quartier le fait de travailler ensemble, là encore à cette échelle du quartier c'est une clé de réussite pour la massification de la rénovation. Alors, il y a un autre changement d'échelle qui est à considérer, mais qui aujourd'hui est quand même en train, enfin en tout cas il est là, c'est le défi du numérique. Est-ce qu'on peut parler du défi du numérique au passé? En tout cas la révolution numérique elle est là et aujourd'hui la massification des usages numériques et la massification de la rénovation, tout ça se fait écho et l'utilisation des données, leur acquisition, leur traitement, leur valorisation, l'intelligence artificielle, le BIM évidemment, enfin bon bref, tout l'apport du numérique, tout ça, enfin, ça représente un formidable accélérateur pour le processus de rénovation. Ça joue aussi évidemment sur l'éco-conception, la mise en œuvre et l'exploitation. Et évidemment, d'une façon générale, ça participe positivement à la massification de la rénovation. Et puis alors il y a autre chose qui nous est nous très très cher évidemment à l'alliance HQE, le changement d'échelle c'est aussi être en capacité de relever le défi de la rénovation environnementale mais au sens large du terme, ça veut dire qu'il faut aller au-delà de l'énergie, on parle beaucoup de la rénovation énergétique bien sûr mais au-delà de la performance énergétique, la rénovation du bâti, ça peut et ça doit être l'occasion de penser le bâtiment dans son son ensemble, et ça doit être l'occasion d'embarquer d'autres enjeux comme la santé, par exemple, le confort, l'usage de matériaux bas carbone, ou encore la fonctionnalité même d'un bâtiment ou d'un quartier, d'un îlot.
Tout est un peu lié, en fait.
Exactement. Oui, oui, tout est imbriqué. C'est sûr. Et puis enfin, je pense que là aussi, on est dans un changement de paradigme. La rénovation en tant que telle, c'est un acte d'économie circulaire. Et c'est vrai que la rénovation va forcément faire appel à la sobriété dans la consommation des ressources. On va favoriser éventuellement le réemploi. On peut aussi penser... on peut optimiser les usages du bâtiment. Donc, en fait, on est réellement dans un changement de paradigme et un changement d'échelle aussi à ce niveau-là. On passe d'une économie linéaire à une économie circulaire.
Donc, ça fait beaucoup de changements d'échelle au final.
Exactement. Beaucoup de changements d'échelle, mais comme vous l'avez si bien dit, des changements d'échelle qui sont assez imbriqués.
Et qui sont la clé au final.
C'est pour ça que j'ai voulu conclure sur l'économie circulaire, parce que l'économie circulaire, l'un des grands traits de l'économie circulaire, c'est précisément le fait de faire travailler, enfin, d'acculturer les acteurs et de les faire travailler ensemble oui, dans un principe de circularité.
Merci infiniment Estelle Réveillard, directrice de l'alliance HQEGBC. Autour de la table également Mathieu Lotchi, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes directeur technique énergie et développement durable chez Letton.
Exactement.
Alors, on parle d'accompagnement avec vous, le défi de l'accompagnement efficace. Alors, qu'est-ce qu'un accompagnement efficace, j'ai envie de vous dire?
Déjà, Letton, en fait, est une entreprise, un cabinet de conseil à dimension internationale, créé il y a un peu plus de 20 ans avec 2000 collaborateurs. Letton accompagne ses clients dans leur recherche de performance sociale, économique, et énergétique et environnementale. Et aujourd'hui, nous sommes un des principaux acteurs du dispositif des certificats d'économie d'énergie. Et aujourd'hui, c'est le principal outil du gouvernement français pour la transition énergétique en France. Alors, l'accompagnement. L'accompagnement
qu'est-ce
efficace,
qu'un bon accompagnement ?
C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, alors déjà, on pourra quand même dire que massifier, on sait faire aujourd'hui.
Oui.
Enfin, on sait faire, on a réussi à le faire avec en particulier la création en 2018 des coups de pouce certificats d'économie d'énergie qui, en deux ans, ont permis d'enclencher un peu plus de 2 millions de travaux d'économie d'énergie. Donc les coups de pouce isolation et chauffage, on a entendu parler, isolation des combles à 1 euro. Oui. Et donc on sait faire, on sait massifier. Aujourd'hui, le vrai défi, c'est d'arriver à massifier les rénovations globales. Les rénovations unitaires, si on fait que ça, on n'arrivera pas à atteindre nos objectifs. Il faut savoir qu'un bâtiment qui est rénové en 3 ou 4 étapes, eh bien, il va consommer à peu près 30% de plus de consommation d'énergie qu'un bâtiment qui va être rénové en une seule étape. Et si on le fait en 6 étapes, c'est plus 60%. Donc aujourd'hui, si on fait que des rénovations unitaires, on arrivera peut-être à réduire de 30-35% la consommation énergétique du parc.
Mais pas plus.
Mais on n'arrivera pas aux 50% prévus par la SNBC en 2050. Donc il faut réussir ce sujet de la rénovation globale, et c'est un vrai sujet qui est assez complexe. Donc Letton agit pour pouvoir faciliter ces rénovations globales. Aujourd'hui, en ce qui concerne les aides, déjà on a un problème de montant. La Convention citoyenne pour le climat a travaillé sur ce sujet et on a besoin d'à peu près 22 milliards d'euros d'aides pour pouvoir atteindre nos objectifs. Entre les C2E, donc le principal outil, et MaPrimeRénov et les aides de l'ANA, on est à peu près à 6 milliards, donc il en manque un petit peu.
Et là, vous comptez quoi, sur les présidentielles ou...
Ou
pas forcément.
Peut-être, on verra bien, mais c'est vrai qu'il en manque un peu. Après, le président Macron nous dit, même avec 22 milliards d'euros posés sur la table, c'est pas sûr qu'on arrive à faire 22 milliards d'euros de travaux. Et en fait, il a pas vraiment tort, parce qu'aujourd'hui, on a un problème d'offre technique. Aujourd'hui, sur les 65 000 artisans de la rénovation énergétique en France, il y en a que 300, un peu plus de 300, qui sont labellisés RGE Rénovation Globale. Donc il faut les trouver, les artisans qui savent faire de la rénovation globale. On a également
un... Il y a un manque de main-d'œuvre en fait, qualifiée.
Alors, la main-d'œuvre qualifiée, c'est quelque chose d'assez nouveau. Hein. La particularité de la rénovation globale, c'est qu'on a besoin d'avoir un architecte, un AMOA, qui va faire la coordination de tous ces travaux. Et c'est pas quelque chose qui est évident. La plupart des acteurs ont un peu de mal à se saisir de ce sujet. Il y a également, alors quand on va parler de l'accompagnement financier, au niveau des aides, entre les certificats d'économie d'énergie, MaPrimeRénov, Habiter Mieux Sérénité, donc les aides de l'ANA, l'éco-PTZ, j'en oublie, eh bien on a parfois jusqu'à 6 dossiers différents à faire pour pouvoir obtenir ces aides. Et donc le montage des dossiers de demande d'aide, c'est une vraie expertise aujourd'hui.
Ça s'avère compliqué, oui.
C'est assez compliqué, exactement. Y a un vrai sujet que j'aborde également dans mon article, c'est le sujet de l'incitation et de l'obligation. Aujourd'hui, le principal frein des ménages qui ne font pas de travaux d'économie d'énergie, c'est pas le financement. C'est le fait que, selon eux, il n'y a pas besoin de travaux. Et donc, en fait, on est sur de l'intérêt général, mais les motivations des ménages, elles sont personnelles. Et lorsqu'ils font les travaux, pour 70% d'entre eux, c'est pour des raisons de confort. C'est parce que la chaudière ne marche plus bien.
Ils se sentent pas concernés, en fait, par...
Alors, ils se sentent concernés. Je pense qu'il y a une vraie prise de... Une prise de conscience. Maintenant, quand on vous dit, il va falloir faire une rénovation globale, donc il va falloir toucher à 6 postes de travaux. On en a pour 2 ans de travaux dans une maison. Personne n'a envie de faire des travaux vont durer 2 ans. On le fait des travaux quand la chaudière ne marche plus, on a des sensations de parois froides. Et donc, on va le faire avec des rénovations unitaires. Donc aujourd'hui, il est nécessaire d'avoir des incitations fortes sur ces rénovations globales. Et donc, il y a des points positifs quand même. les coups de pouce, isolation et chauffage, en fait, sont aujourd'hui terminés.
Ouais.
Et on laissait place au coup de pouce rénovation globale. Donc le gouvernement pilote les aides, ces 2 E en tout cas, sur les rénovations globales. Mais aujourd'hui, on a du mal à faire la même chose que pour les coups de pouce isolation et chauffage, parce que le sujet est assez complexe. Donc on espère que ça va se développer.
Il n'y a pas de raison, ça devrait.
Exactement, oui.
En tout cas, on croit en vous. Merci beaucoup Mathieu Lecci. On accueille également autour de la table Jean-Luc Bouchou, bonjour.
Bonjour.
Vous allez bien ?
Très bien, merci.
Alors, vous êtes délégué général du cercle Promodule INEF4. Alors, vous pouvez déjà nous parler un petit peu du cercle Promodule INEF4 ?
Très bien. Le cercle Promodule INEF4, ou historiquement Promodule, existe depuis 25 ans. Notre objectif est de travailler dans la logique de l'intérêt général et du bien commun et de l'utilité au plus grand nombre à la réussite des transitions énergétique, environnemental et numérique du bâtiment, en plaçant l'usager au cœur de ces transitions.
D'accord, tout simplement.
Et voilà, et donc nous sommes le petit slash INEF4, c'est parce que nous sommes en fait le fonds de dotation de l'Institut de Transition Énergétique INEF4, voilà, dont André Falchi est le directeur général, et il a parlé en introduction, il parlera dans la table ronde numéro 2 également.
Tout à fait. Alors, avec vous, nous allons parler des collectivités, plus précisément, comment les accompagner ?
Absolument. Alors, en fait, dans l'article qu'on a proposé dans le dossier, on a présenté 2 choses. Un guide que nous avons travaillé pour les collectivités, et également un projet qui s'appelle MARC, qui est développé au sein de l'Institut de Transition Énergétique, pour la mise en application de cette échelle de massification. Donc si je reviens sur les 2 sujets, le dossier et l'expérimentation, si je reviens sur le premier sujet, le dossier en lui-même, il est parti d'un constat qu'on a fait il y a déjà un petit peu de temps, plus de 2 ans, de dire on veut massifier, mais massifier c'est une équation qui doit rassembler des paramètres qui vont être décarbonés, industrialisés, innovés et aussi préserver la qualité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de massifier pour faire de la surproduction et de l'appel d'air à la contre-performance, et de massifier tout en préservant la qualité. Mmh. Et derrière ça, il y avait un facteur, la confiance. C'est comment générer et créer de la confiance. Quel acteur de confiance peut être un élément déclencheur de la massification ? Et on a entendu parler à plusieurs reprises de l'échelle et du changement d'échelle. Estelle en a parlé dans l'introduction. Effectivement, on a considéré que l'échelle du quartier était le bon niveau, sauf que pour l'instant, personne n'est à ce niveau d'échelle, en tout cas. Et du coup, la collectivité pouvait être l'acteur clé ou de confiance de cette échelle.
Mais on parlait de rassurer tout à l'heure.
Exactement. Mais pour cela, il fallait qu'on puisse aider les collectivités ou les guider pour comprendre les différentes étapes qui permettaient de s'attaquer à cette échelle. C'est l'idée du guide, dans lequel on a travaillé pendant plus de 18 mois pour l'élaboration de ce guide, et où on a défini 10 étapes, donc des étapes amont, avant les travaux, tout ce qui concerne la concertation, la prise de décision, l'organisation, les étapes pendant les travaux, et aussi les étapes après, puisqu'on considère que ce qui va être très important pour générer la confiance, c'est qu'il y ait des retours d'expérience positifs.
Un suivi, en fait, après, c'est ça ?
Exactement, et aussi un suivi des performances. Puisque du coup, on promet aux gens une amélioration, on promet de s'inscrire dans des stratégies BBC, SNBC, Stratégie Nationale Bas Carbone.
Pour voir si c'est vraiment le cas, en fait.
Exactement. Parce qu'aujourd'hui, on le mesure bien, la rénovation énergétique marche peu par rapport aux 500 000 rénovations et par rapport à la logique de globalité de performance à atteindre.
Et ça, vous pensez que c'est parce que ça parle pas aux gens, les gens n'ont pas confiance, ou c'est qu'ils se sentent pas concernés ?
Il y a plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. Il y a déjà l'historicité du bâtiment, c'est un secteur qui travaille en silo, que chaque acteur est dans son silo. Donc déjà, il faut arriver à créer de l'innovation méthodologique. C'est comment on peut briser ou dessiloter ces éléments pour que les acteurs puissent travailler conjointement ou ensemble pour un objectif commun, c'est-à-dire réussir une rénovation. Donc c'était l'idée de ce guide. L'idée du guide, c'était de dire, voilà, l'innovation technologique, elle existe. Il y a sans doute d'autres choses encore à inventer, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel sera méthodologiquement comment on s'y prend pour arriver à rassembler toutes ces personnes qui sont d'horizons divers, comment on s'y prend dans un quartier pour arriver à aider chaque maître d'ouvrage qui est indépendant, l'un de l'autre, à se concerter pour dire globalement on est d'accord pour procéder à la rénovation de nos biens. Et dans l'idée, on a dit, c'est un sujet complexe, mais il faut essayer de s'adresser déjà aux particuliers. Et les collectivités peuvent s'adresser à leurs administrés et l'idée d'aider les collectivités à travers le guide. C'est ce qu'on a voulu montrer dans l'article et c'est l'objectif qu'on essaie de poursuivre, de chercher.
Et est-ce que toutes les collectivités sont ouvertes ?
Alors oui, mais elles sont ouvertes avec toujours aussi la question de dire ce changement d'échelle est préoccupant, comment on s'y prend ? Et qu'est-ce qu'il faut faire, et aussi comment on peut faire quelque chose d'un peu novateur dans la massification. Quand on s'adresse à un quartier avec des propriétaires différents, on est dans de la donc multipropriété, on va avoir les mêmes écueils que dans la rénovation d'une copropriété, en fait.
Oui,
chacun doit décider.
Oui.
Exactement.
C'est un peu un enfer.
Alors que quand on rénove un parc qui appartient à un propriétaire, par exemple, absolument. Les bailleurs sociaux ont montré qu'ils étaient capables de rénover des bâtiments et des parcs entiers de bâtiments, de les rénover de très bonne manière. Mais là, on complexifie le sujet en disant qu'il va falloir s'adresser à des acteurs individuels. Donc c'est la nécessité de structurer ou d'organiser cette démarche.
Et j'imagine que ça prend plus de temps en plus quand c'est...
Donc ça prend plus de temps et aussi il faut pouvoir mettre en place le système qui va faire en sorte qu'on garde aussi les acteurs de proximité. Parce que la confiance, elle va être liée aux acteurs de proximité. Donc comment les artisans locaux peuvent s'imbriquer dans un tel projet pour malgré tout ne pas perdre leur identité et que les particuliers qui sollicitent ces travaux et dans cette logique de massification, et aussi des repères de confiance et de proximité. Donc ça, c'était l'élément que le guide a mis en place et qui nous amène au projet dont on parle aussi dans le dossier ou dans l'article, le projet MARC, qui est porté par l'Institut Transition Énergétique, où il s'agit en fait d'expérimenter à l'échelle 1 ce que le guide contient et explique. Et du coup, on est déjà assez content de voir que quelques collectivités se sont positionnées. Et il y a un projet en cours dans le sud-ouest de la France.
Mais c'est ce que j'allais dire, vous avez des retours déjà.
Il y a un projet qui est en train de se monter à Oloron-Sainte-Marie, qui est une commune du département 64, sur justement les premières étapes en tout cas les premiers éléments pour essayer d'expérimenter cette approche de la massification à l'échelle du quartier. Il y a d'autres projets, d'autres éléments aussi dans d'autres régions de la France sur lesquels on, à travers d'autres approches, notamment des parcours rénovation énergétique performants ou appelés PREP, on essaie de voir comment la collectivité peut être intégrée, engagée comme le tiers de confiance déclencheur des actes de rénovation.
Merci infiniment Jean-Luc Buchou. Merci également à vous Estelle Réveillard et Mathieu Locci. Merci d'avoir participé à cette première table ronde. Table ronde que vous pouvez évidemment retrouver sur le site construction21.fr. On continue nous ensemble avec la deuxième table ronde.
Les dossiers Construction 21, seconde table ronde.
Bienvenue dans cette deuxième partie des dossiers de Construction 21. Pour cette deuxième table ronde, eh bien, nous parlons encore de rénovation. Et pour cela, j'accueille trois nouvelles personnes sur le plateau. La première d'entre elles, c'est André Falchi, directeur général de Novatech INEF4 et également rédacteur en chef du dossier. Et vous allez nous parler, André Falchi, justement de la massification de la rénovation.
Bon, d'abord, on va poser le contexte. Effectivement, il y a des objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Ces objectifs sont à 2050, on croit qu'ils sont loin, mais quand on voit la courbe aujourd'hui, on risque de ne pas les atteindre, donc il y a une urgence. Ça, c'est le premier point. Pourquoi on parle de massification? C'est parce qu'en fait, où on traite le problème individuellement, logement par logement, et ça va prendre du temps et on ne sera pas au rendez-vous, ou alors on essaye de le massifier et de changer d'échelle comme on l'a dit à l'introduction. Ce changement d'échelle, il est on cherche comment le prendre des manières. Donc une des actions, c'est de dire ben si on regarde la progression que l'on a eue sur les bâtiments neufs aujourd'hui, il y a une réglementation qui est en vigueur. On a traité le problème des bâtiments neufs. Tous les bâtiments neufs qui sont construits aujourd'hui sont pas loin d'être passifs, en tout cas répondent aux objectifs. Il reste que le parc, il est fait de bâtiments anciens qu'il faut rénover, et on voudrait essayer de pas les traiter un par un parce que c'est trop lent, tout simplement. Donc à partir de là, on voudrait aussi démythifier un point, c'est que c'est pas la technologie elle seule qui peut régler ce problème-là. Je vais même aller un cran plus loin. Je crois qu'aujourd'hui, les technologies, pratiquement, on les a. On n'a pas à attendre un Deus ex machina technologique qui va nous sortir la solution. On a une série de solutions qui sont...
Vous les avez toutes?
On les a pratiquement toutes. Par contre, ce qui leur manque, hein, c'est l'applicabilité et le coût. C'est pas rien, donc ça veut dire qu'à la limite on en a peut-être pas tant que ça, mais ça passe par une phase qui est de réussir l'industrialisation des solutions que l'on maîtrise déjà. Ça c'est le premier point. Industrialiser les solutions, ça veut dire qu'on sait déjà ce que l'on va y faire. Et dans savoir ce que l'on va y faire, il y a un autre enjeu qui est très important, c'est de savoir comment on peut, à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, intervenir. Et donc pour cela, la numérisation commence à avoir un rôle prépondérant. Mmh. À savoir que l'on va devoir traiter, si on donne un exemple par exemple d'un quartier, ça se situe entre quatre rues. Et dans ce quartier-là, il y aura effectivement des logements individuels, des bureaux, des entreprises, des commerces. Et donc on va pas pouvoir effectivement traiter tous ces morceaux de quartier de la même manière. Donc pour cela, il faut pouvoir en avoir une bonne connaissance et ce qu'on appelle un état référence. Et la numérisation... Aujourd'hui, une fois de plus, c'est une technologie, elle est en place, elle peut être utilisée largement pour pouvoir déjà, dans un premier temps, faire un état référence de la zone à traiter. Donc, on est bien sur une échelle qui est largement au-delà du bâtiment, on a des technologies, on peut numériser pour faire l'état référence, et après, c'est là où c'est le plus délicat, il y a la concertation.
Et pourquoi c'est délicat? Pourquoi c'est le plus délicat?
Parce qu'aujourd'hui, on met... de manière un petit peu obligée, mais dans le bon sens du terme, des acteurs qui se parlent en série et pas ensemble. Mmh. La collectivité territoriale, le propriétaire de la maison individuelle...
Un millefeuille, en fait.
Exactement. Et donc, ces gens-là vont devoir aujourd'hui, et nous avec, hein, bien sûr, travailler ensemble sur, à partir de l'état référence, pouvoir diagnostiquer ou identifier les zones à traiter en priorité, en rénovation, et se mettre d'accord effectivement, sur le processus, étant donné que le processus n'est pas qu'une mise en place de solutions technologiques, elle est aussi par une mise en place de coûts et d'acceptation de l'usager final, qu'il soit chef d'entreprise ou madame Michu habitant le quartier, habitante dans son logement individuel dans le quartier.
D'accord. Du coup, ça, oui, ça prend plus de temps, forcément, tout cet enchaînement. Quelques mots sur Immersite.
Alors, justement, on parle du troisième point que j'évoquais, c'est un point de concertation. Et bon, il s'avère qu'un institut de transition énergétique et environnementale tel que nous le sommes, se doit de pousser aussi des solutions. Donc, on a développé une solution qui s'appelle Immersite et qui est une solution, dans un premier temps, de concertation. Donc, c'est bien un outil qui permet, à partir du moment où on a numérisé une zone à aménager, un quartier à traiter, on peut réunir autour de cette table immersive la maquette de la zone à traiter et les solutions de traitement qui sont apportées dessus, et mettre tous les acteurs autour de la table pour voir les incidences que ça peut avoir et surtout leur permettre d'anticiper et de renforcer l'acceptabilité des solutions qui sont proposées. Voilà, donc c'est un outil qui permet effectivement, alors à l'échelle très, très petite d'une zone d'aménagement, nos expérimentations montrent que chaque fois que les aménageurs font des réunions publiques avec les usagers, on arrive à réduire les recours, voire les annuler, par ce genre de concertation. Voilà, c'est un exemple donné, et il peut être largement étendu, effectivement, au quartier et à la ville.
Pour aider tout le monde.
Exactement.
On va prendre à distance Jonathan Villot.
Bonjour.
Alors, vous êtes maître assistant à l'École des mines de Saint-Étienne.
Exactement.
Et justement, vous allez nous parler de l'innovation numérique. Permet-elle de massifier la rénovation ?
Exactement. L'entrée sur laquelle je travaille, c'est aujourd'hui, il y a de plus en plus de données qui sont accessibles et il y a différents outils liés à l'intelligence artificielle qui se développent. Et tous ces outils liés au numérique, cette quantité de données, on peut se questionner sur l'intérêt qu'elle pourrait avoir, notamment pour la massification de la rénovation énergétique. Et alors déjà, en fait, pour faire un petit tour d'horizon des données, il faut savoir que depuis plusieurs années, il y a une tendance à ouvrir et rendre accessible une quantité de données assez impressionnante à des échelles de plus en plus fines. Et le parc de logements en France a pas fait exception. Et aujourd'hui, en fait, on peut avoir des bases de données qui permettent de connaître finement les logements en France. Quand on parle de bases de données, il faut avoir en tête qu'il y a les données ouvertes qui sont accessibles à tout le monde, et il va y avoir des données contraintes. Alors, des exemples de données ouvertes aujourd'hui liées au bâtiment et plus spécifiquement à l'énergie, on peut mentionner les diagnostics de performance énergétique. Aujourd'hui, à chaque fois que vous allez louer ou vendre votre bien, il y a un diagnostic qui s'appelle un DPE qui va être fait, et toutes les données issues de ce DPE sont aujourd'hui en open data. C'est une base de données qui a été rendue accessible depuis une grosse année par l'ADEME. On a aussi d'autres données un peu plus temporalisées, comme les données des compteurs installés dans les logements. Donc cette fois-ci, en fait, pour tous les bâtiments qui vont avoir plus de 9 points de livraison, donc en gros 9-10 logements, on va pouvoir connaître la consommation. Et grâce à toute cette information disponible, avec des traitements en regroupant, on va pouvoir faire des cartographies et des cartes d'identité des logements en France. Et ça peut avoir un usage qui a déjà été testé il y a quelques mois lors d'un hackathon qui était organisé par l'ADEME. Et l'objectif, c'était de voir comment ces données-là pouvaient être utiles pour massifier. Alors, il y a eu plusieurs exemples de réusage de ces données-là à différents niveaux. Je vais en citer quelques-uns. Un premier exemple, c'est de se dire que grâce à la connaissance que l'on pourrait porter sur le parc de logement et sur son logement auprès des citoyens, auprès des habitants, l'idée étant de dire, je clique sur une carte en ligne accessible à tous et j'ai la consommation de mon bâtiment, je peux le comparer avec d'autres. On pourrait penser que ça pourrait sensibiliser un peu plus et puis faire prendre conscience aux gens de où en est leur logement, est-ce qu'il est meilleur ou moins bon, et les inviter à rénover en se disant qu'ils vont appeler beaucoup plus les acteurs publics liés à la performance énergétique pour être accompagnés. Un autre exemple qui peut être envisagé avec cette donnée-là, cette fois-ci côté acteurs publics, donc eux vont réutiliser les données ouvertes dont j'ai parlé et vont aussi utiliser des données contraintes hein, qui sont les seules à pouvoir obtenir et qui va leur donner des informations plus sur des aspects sociaux, sur des aspects économiques qui sont très importants pour la rénovation parce que outre la faisabilité technique, souvent il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes sociales et grâce à cette connaissance-là, ils vont pouvoir en fait changer un peu leur façon d'agir, c'est-à-dire au lieu de sensibiliser et d'attendre que les gens appellent les services publics de la performance énergétique, ils vont pouvoir se mettre en position proactive, donc de repérer en masse des bâtiments avec des personnes de typologie socio-économique identique, avec des bâtiments ayant des caractéristiques similaires, de pouvoir repérer cette masse-là pour pouvoir après essayer d'organiser par exemple des groupements. L'idée derrière, c'est de pouvoir soit utiliser des techniques, comme ça a été mentionné, industrielles sur des bâtiments en bande, mais aussi pouvoir travailler des groupements d'achat. Et donc, au lieu de rénover maison par maison, appartement par appartement, on pourrait rénover quelques milliers d'appartements. Et donc, de fil en aiguille, pouvoir éventuellement jouer sur les coûts. Et donc, grâce à cette donnée-là, repérer et activer la massification.
D'accord, donc ça permettrait d'aller plus vite, plus simplement.
Exactement, et d'être en phase avec les objectifs qui sont au niveau national, avec la SNBC, ou au niveau local, sur les plans climat ou les différentes politiques locales, d'être en phase à la fois en termes de volumétrie accompagnée, et aussi en phase avec le niveau de performance souhaité. Hein, comme on peut connaître les bâtiments et leurs performances, on pourrait aussi envisager d'analyser grâce à la donnée les contraintes à l'atteinte d'objectifs tels que le niveau bâtiment basse consommation, qui est un niveau qui devrait être obtenu par tous les bâtiments dans moins d'une trentaine d'années. Et donc, en fonction de cette connaissance aussi des contraintes, de la difficulté grâce à la data, de mettre en place peut-être des partenariats publics-privés ou des solutions d'accompagnement spécifiques. L'idée, c'est pas d'industrialiser, on va dire, de façon homogène, mais de faire un peu ce que l'on appelle en industrie de la mass customization. Donc, en fait, de massifier tout en personnalisant l'accompagnement.
Mmh. Oui, des précisions que l'on n'aurait pas pu avoir sans la data et l'IA, au final. Hein.
Non, voilà, exactement. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui révolutionne la connaissance du parc de logement. Et à la fois, l'IA permet d'améliorer, d'enrichir et la connaissance de la donnée initiale grâce à des acteurs comme l'ADEME, comme le ministère ou comme l'IGN permet aussi d'avoir de la donnée fiable. Ça, c'est un élément important parce que tout ce qui est lié à la donnée questionne la fiabilité. Et aujourd'hui, on commence à avoir des données qui ont des niveaux de précision suffisants pour pouvoir prendre des décisions éclairées en faveur de la massification.
Oui, et vous avez dit le mot révolutionner, c'est ça, c'est une révolution pour le secteur. Merci infiniment Jonathan Villot.
Merci à vous.
On va repasser en studio avec Olivia Cole. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes architecte et chargée de projet réemploi et économie circulaire chez Cycle Up. Qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement vos spécialités?
Oui, tout à fait. Cycle Up, en fait, c'est une entreprise qui est née il y a 4 ans et qui accompagne les différents acteurs du bâtiment, donc maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, entreprise, dans les démarches de réemploi. Et par ailleurs, c'est aussi une plateforme de matériaux de réemploi de construction, donc qui a pour but de mettre en relation les acheteurs potentiels et les vendeurs.
Et vous allez aussi nous parler du coup de ces projets de rénovation, mais surtout comment intégrer l'économie circulaire dans ces projets de rénovation.
Absolument.
Qui est très important.
Exactement. Alors en fait, on sait aujourd'hui que la rénovation dans une perspective d'optimisation des performances énergétiques, c'est essentiel pour limiter l'impact environnemental de la phase de vie en œuvre des bâtiments. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que les matériaux représentent 56% de l'impact carbone des bâtiments sur l'ensemble de leur cycle de vie. Ce qui signifie que si elle continue de s'inscrire dans une trajectoire linéaire, le bénéfice de la rénovation sur la trajectoire carbone va être assez lointaine. C'est pour cela qu'aujourd'hui, c'est vraiment important qu'au sein des rénovations, on recourt aux matériaux de construction, pardon, de réemploi, et qu'on s'assure de la réemployabilité des matériaux qui sortent des chantiers. Donc autrement dit, il faut penser massification de la rénovation et conjointement massification du réemploi. D'où le travail qui a été mené au sein de Cycle Up, qui a été un travail d'étude au cours duquel on allait rencontrer des maîtrises d'ouvrage pour essayer de comprendre les freins et les motivations qu'elles avaient à s'impliquer dans le réemploi des matériaux de construction pour les aider à construire des repères méthodologiques pour systématiser le réemploi au sein de leurs opérations.
D'accord.
Donc en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience qui se fait petit à petit chez ces acteurs vis-à-vis du réemploi et aussi que la réglementation est une composante assez importante dans la trajectoire de la pratique du réemploi. Aujourd'hui, on a la loi AGEC qui fait évoluer le diagnostic déchets vers un diagnostic produit équipement matériaux déchets et qui sera applicable désormais aux rénovations dont le coût des travaux sera 25% supérieur à la valeur vénale du bien. Et par ailleurs, le décret d'application qui a été donc voté cet été, qui fait que cette loi sera active à partir du 1er janvier 2022, a permis aussi de spécifier le mode de calcul de l'impact des matériaux de réemploi dans les constructions et dans les rénovations futures, et qui sera donc nul. Donc aujourd'hui, le réemploi devient finalement un véritable levier dans les opérations de rénovation pour entrer dans une démarche de qualité environnementale et pour valoriser cette démarche surtout.
Et là, quand vous dites juste que les acteurs commencent à en prendre conscience, c'est quoi ? C'est la moitié des acteurs ? C'est la majorité ?
Alors, c'est intéressant. En fait, aujourd'hui, c'est vrai que les foncières prennent, enfin, en particulier en main ce sujet parce qu'elles ont un patrimoine important et que, justement, elles se rendent compte qu'il y a beaucoup de valeur dans leurs bâtiments. En fait, elles commencent à considérer les bâtiments comme des banques de matériaux et elles prennent conscience que bien caractériser ces matériaux devient stratégique pour éviter leur mise en déchets et permettre de les valoriser au mieux. Et c'est par exemple ce que fait, c'est un exemple dont on parle dans notre contribution, mais l'entreprise Gessina, qui est une foncière et qui fait beaucoup de rénovations. Et donc, sur son projet rue d'Arreau, par exemple, elle utilise des anciens planchers en béton armé qu'elle va dépolir et utiliser en matériaux d'habillement de façade. Elle est en train aussi de faire une étude avec une entreprise de serrurerie pour développer un prototype de volet coulissant à partir de bacs acier qu'elle va réemployer sur son projet. Et en fait, c'est une entreprise qui, de manière plus générale, est en train de mettre en œuvre des moyens pour faire circuler la matière entre ces différents chantiers. Donc en fait, c'est ces témoignages et ces bonnes pratiques qu'on est allé chercher pour capitaliser sur ces expériences et derrière construire des repères méthodologiques qui seront accessibles à ces différents acteurs.
Mais c'est vrai que le réemploi, en fait, c'est primordial quand on parle de rénovation au final.
Absolument.
Merci beaucoup Olivia Coll. Merci à tous d'avoir assisté à ces deux tables rondes. C'est évidemment, ces deux tables rondes sont à retrouver sur le site internet construction21.fr. Vous pouvez retrouver évidemment tous les dossiers de Construction 21, notamment celui-ci, massifier la rénovation. Et puis pour clore ce numéro, on va remercier évidemment André Falchi, directeur général de Nomatech INEF 4, également rédacteur en chef du dossier, Jonathan Ville qui était à Saint-Étienne, en direct de Saint-Étienne, maître assistant à l'école des mines de Saint-Étienne, et vous, Olivia Coll, architecte et chargée de projet réemploi et économie circulaire chez Cycle Up. Le numérique comme le réemploi, c'est un peu la conclusion de ce dossier. Ce sont deux outils formidables à déployer pour massifier la rénovation. Et puis, quant à nous, on se retrouve très vite pour un prochain rendez-vous des dossiers de Construction 21.
Les dossiers Construction 21, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.